Amen. Avant tout, c'est le bonheur d'être autour du Seigneur et avec ben, ceux qu'il aime, ceux que Dieu aime et qui aiment Dieu. Je vous propose alors, désolé, ça ne sera pas une prédication textuelle où on prend un texte et on le suit simplement. Il m'arrive encore, rarement, mais de faire autre chose que ça. J'ai passé 40 ans à faire que ça. Et je compte passer tout le reste à faire quasiment que du textuel. Mais aujourd'hui, non, on va. Parce que je propose une espèce de vue globale sur la manière dont la Bible parle du miraculeux. En fait, réfléchir aux données bibliques. Non, alors en 3 quarts d'heure ou quelques, pas toutes les données bibliques, mais voilà. Et je propose de commencer par la conclusion. Comme ça, si en cours de route, l'un ou l'autre se dit, mais pourquoi il va faire un tour là et un tour là dans la Bible, vous saurez où c'est qu'on va quand même. Alors la conclusion, première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Bien entendu, il ne faut pas lire ce verset 22. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous nous prêchons Christ crucifié, comme si Paul suggérait une opposition entre miracle et Jésus crucifié, la croix, ou entre sagesse et Jésus crucifié. Puisqu'il dit tout de suite hein, au verset 24, Christ, il est puissance de Dieu et il est sagesse de Dieu. Et encore le verset 18, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Alors, si on réfléchit correctement, donc c'est quoi qui est correct? C'est ce qui suit les données bibliques. Si on réfléchit correctement à la sagesse, ça nous amène à la croix. En l'occurrence, au crucifié qui est ressuscité, qui est le Fils unique du Père. Et si on réfléchit correctement au miraculeux, ça nous amène à prêcher Jésus-Christ crucifié. La sagesse de Dieu nous amène à prêcher Jésus crucifié et la puissance de Dieu nous amène à prêcher Jésus crucifié. Donc toute la réflexion que je propose ce matin, c'est dans cette perspective, pour, avec encore plus de paix, de zèle et de foi, bien entendu, prêcher Jésus crucifié, parce que c'est là qu'est la puissance. En lui-même, en sa personne et en son œuvre. Alors, si vous voulez, on va passer quelques minutes dans 1 Roi 17 au sujet de Élie. Donc là, on va voir quelques miracles. 1 Roi 17. Ensuite, on va aller faire quelques minutes dans Genèse 1, rapidement. Ensuite, dans Exode 3. Moïse, le buisson ardent, voilà. Et puis ensuite, bien sûr, acte 10, le kérigme, ce que Pierre a prêché chez Corneille. Donc là, on ne va pas développer le kérigme, hein, mais voilà. Et puis on revient à 1 roi 17. Et puis, j'espère bien, je pense qu'on ne peut pas... Voilà, il faut que je sois assez concis pour arriver quand même à Matthieu 10. Voilà, il donna aux 12 le pouvoir de guérir, aller prêcher, guérir, etc. Voilà. Si tel ou tel aspect ne vous parle pas, ça fait... pendant un moment, laissez passer. C'est enregistré, j'imagine. Et que chacun soit béni par ce qui... Oui, sans que Dieu le touche. Donc, 1 roi 17, il faut que j'y aille quand même. Donc, le contexte, c'est sous le règne d'Akab. Déjà, du père de Akab, roi d'Israël, royaume du Nord, Omri, son père, le texte dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus qu'aucun avant lui. Et d'Akab, il est dit, quand il est présenté au chapitre 16, qu'il fit ce qui est mal plus qu'aucun avant lui. Et au moment où il meurt, où il y a, parmi les derniers mots qui sont écrits à son sujet, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et c'est pendant ce règne-là que Dieu suscite Élie. Et voilà comment Élie apparaît dans le texte biblique. Alors Élie, hein, vous le savez, c'est celui qui est sur le mont de la Transfiguration avec il y a Jésus, Moïse et Élie. Voilà, donc façon de dire, c'est pas n'importe qui. Élie, le Tishbite, c'est-à-dire habitant de Tishbé, un village, l'un des habitants de Galaad, Élie dit à Akab, donc voyez, il ne s'est même pas dit qu'il est prophète. Et c'est comme si... Non, peut-être j'exagère. En tout cas, on ne sait pas d'où il sort. Voilà. Quand on lit le texte en suivi, on ne sait pas d'où sort Élie. Il dit à Akab, le roi, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Alors, bien entendu, c'est sinon à ma parole, c'est à comprendre avec devant qui je me tiens. C'est-à-dire que la parole d'Élie ne fait que répercuter une parole de Dieu. Et ni rosée ni pluie est à comprendre, pareil, avec l'Éternel devant qui je me tiens. Et si vous voulez, plus précisément, Deutéronome 11, verset 17, « Quand vous vous détournerez, quand vous serez idolâtre, quand, eh bien, dans ma colère, je fermerai les cieux et il n'y aura pas de pluie. » Voilà. Je continue, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi à l'est, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, c'est sa région, il est de vers là-bas, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Donc là, il y a parole de l'Éternel adressée à Élie. Et il dit à Élie, Dieu dit à Élie ce qu'il a ordonné, c'est-à-dire ce qu'il a disposé et qui va arriver. Il partit de là, agit selon là, voilà, etc. Au bout d'un temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. On reviendra plus tard sur ces répétitions. Vous le savez, l'Ancien Testament fourmille de ces mots. La parole de l'Éternel adressée à quelqu'un. On y reviendra. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Le Tyré Sidon, c'est de là qu'était Jézabel, hein, la femme d'Akab. Reste-y, voici que là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un récipient, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant et je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. » Après quoi, ce qui ici veut dire dans la suite, nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Et là, l'affaire, selon la parole d'Élie, qui répercutait la parole de l'Éternel. Ça veut dire, à ce moment-là, il donne la foi à cette dame. Alors, on reviendra aussi sur différents aspects de ce qu'on vient de lire. Tout de suite, je veux juste relever que, verset 14, « Ainsi parle l'Éternel, le pot de farine ne s'épuisera pas, la cruche d'huile ne se videra pas. » Le miracle, il y a un premier miracle, c'est les corbeaux qui amènent du pain, de la viande. Ce miracle-là, pain, farine et huile, tous les jours, longtemps, plus loin le texte précise, longtemps, le miracle résulte de la parole de l'Éternel. Voilà. Et maintenant, la suite, verset 17. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et faire mourir mon fils ?» Il répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu. » Est-ce que tu causerais du mal, même à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils ? Voyez, il vient devant Dieu, il amène toute la situation devant Dieu, il ramène tout à Dieu. Il s'étendit trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie. C'est marqué dans la Bible. Alors, il n'y a pas lieu de stupidement supposer que Dieu n'y avait pas pensé qu'il pouvait éventuellement ressusciter ce petit. Et que heureusement qu'Élie y a pensé. Vous voyez, ça c'est le genre de... C'est des pistes où il ne faut pas aller. Parce que c'est les ravins après. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie. Et donc voilà le point, si vous voulez, tout ce qu'on a lu jusque-là, pour commencer, c'est pour arriver à ce verset-là. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Or, elle le reconnaissait déjà. Elle l'a vu pendant tous les jours, elle le voyait. Ne serait-ce que dans l'assiette, elle voyait qu'Élie était un homme de Dieu. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Donc là, il y a quelque chose de plus dans son cœur, dans sa foi. Il y a quelque chose de plus. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alors là, il y a lieu d'être stupéfait et admiratif envers Dieu de la manière dont il a fait écrire la Bible. Parce qu'il est quasi certain que ce n'est pas que la maman, cette maman, elle a dit autre chose que ça en plus. C'est quasi certain que c'est comment. Voilà. Mais Dieu, par son esprit, fait rapporter et écrire et arriver jusqu'à nous aujourd'hui, comme a dit notre frère, heureusement, nous avons la parole de Dieu. Dieu a fait écrire que cette femme a dit, païenne, hein, mais qui commence à, voilà, bien en chemin, a dit quoi? Ce miracle extraordinaire, c'est à ma connaissance, sauf, je ne sais pas, Joël ou d'autres, enfin, à ma connaissance, c'est la première résurrection que la Bible rapporte. C'est la première. Et là, elle ne dit pas « Oh là là, il est ressuscité, il est vivant, je reconnais que tu es un homme de Dieu parce que tu as ressuscité mon... » Enfin, vous voyez, les mots que Dieu fait écrire. Je reconnais que la parole de l'Éternel dans ta bouche, donc voilà, dans notre vie, hein, par ta bouche, que la parole de l'Éternel est vérité. Alors, on a observé avec la farine et l'huile que la parole de Dieu produit le miracle. Ici aussi, elle produit le miracle. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Que le miracle sert la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est le résumé de la prédication. Et c'est pour ça qu'on prêche le crucifié. Les miracles, hein, c'est comme ça que finit l'évangile de Marc, le Seigneur confirmait la parole par les signes. Les miracles servent la parole de Dieu. Donc le but, c'est que la parole de Dieu soit entendue et reconnue pour vraie. La parole de l'Éternel est vérité. Deux minutes dans Genèse 1, peut-être sans lecture même, parce qu'il y a tellement de choses. Dieu fit, au commencement, Dieu fit le ciel et la terre, mais pour mieux voir, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit que les ténèbres, voilà, il a séparé. Dieu dit que le sec et l'eau, il en fut ainsi. Il en fut ainsi quand tu lis Genèse 1. Et Dieu dit, et il en fut ainsi. Dieu dit, et il en fut ainsi. Et c'est comme récapitulé dans le psaume 33. Il dit, et la chose arrive. Alors, tout ce que, déjà dès Genèse 1, et très tôt pendant la première prière pendant de notre frère qui présidait a mentionné la croix, le sang qui coulait, Jésus crucifié. Puis vite, je ne sais plus si c'est avec un chant, ou, oui voilà, Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère. Et nous avons pu chanter le Créateur, tout ce qu'il a fait. Que de le voir. Et quand on voit que dans Genèse, c'est donc ex nihilo à partir de rien, hein. Après il y a des transformations, Dieu a créé aussi en transformant, mais aussi comme ça. Eh bien, au sujet de tout ça et de ce qui suit, hein, et l'homme devint une âme vivante, etc., etc., au sujet de tout ça, ou plutôt tout ça, Genèse 1, 2, 3, tout, toute la Genèse, y compris Genèse 20, où Dieu guérit Abimélec sur la prière d'Abraham, Genèse 20, le texte ne qualifie pas ça de surnaturel. Et le mot miracle est absent de Genèse. Alors pourquoi? Eh bien, parce que, donc en fait, le ton est donné. Genèse donne le ton à toute la Bible. c'est le païen qui voit les miracles avec pour contre-référence le naturel. Et donc il dit ça, c'est surnaturel. Mais dans la Bible, ça a été mentionné dans une prière aussi, le naturel, il tient comment? Par quoi il tient? Hébreux 1, verset 3, parlant de Dieu et le Fils. Ce Fils qui soutient toute chose par sa parole puissante. Donc s'il y a un arbre, s'il y a, vous voyez, si le sol tient sous nos pieds, si on respire, si on... Voilà. Donc finalement, la Bible ne sépare pas entre surnaturel et naturel, puisque le naturel, le surnaturel, on sera tous d'accord, vient de la parole de Dieu. Tout le surnaturel, tout ce qui est surnaturel vient de la parole de Dieu. Les magiciens de Pharaon, à un moment, ils ont fait comme Moïse. Et Jésus, parlant de la fin, il dit, il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des prodiges, au point de séduire, si possible, si c'était possible, même les élus. Donc, vous voyez que surnaturel, il n'y a pas lieu de perdre son bon sens face au surnaturel. Au contraire, il faut redoubler de bon sens. Alors, donc la Bible ne sépare pas entre naturel et surnaturel, puisque si autant le naturel vient par la parole de Dieu quand c'est les miracles de Dieu, autant le naturel tient par la, enfin, ce qu'on qualifiera plus tard de naturel, tient par la parole de Dieu. Mais la Bible sépare entre ce qui est parole de Dieu et ce qui n'est pas parole de Dieu. Et là, pareil, dans différentes lectures ou prières, c'est quelque chose que Dieu a fait sortir ce matin. Ce qui m'aide à croire qu'il m'arrive d'être inspiré quand je demande de quoi il faut que je parle. Amen. Alors, Exode 3. Là, par contre, un peu de lecture. Donc, c'est l'épisode du buisson ardent. Versets 7 et 8, l'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, etc. » Et puis, verset, toujours chapitre 3, verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Selon les traductions, c'est miracle, mais bon, c'est le sens. Que je ferai, toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. C'est ici, donc, si vous voulez. Lire ça, ça répond à la question, comment le mot miracle apparaît dans la Bible? Bon, c'est Dieu qui l'introduit, il apparaît dans la bouche de Dieu en premier. Et ça, c'est pour lui, il n'y a pas besoin de qualifier de miraculeux ce qu'il fait. Mais vu l'état de l'humanité et même d'Israël à ce moment-là, ben Dieu emploie ce mot. Si vous voulez que Dieu emploie ce mot, c'est une grâce. C'est de la compassion, si vous voulez. Pour l'homme, après la rupture, pour l'humain, le miracle est étonnant. Et c'est d'ailleurs le sens du mot hébreu « pelé », qui veut dire « chose étonnante, prodige, merveille, signe », et d'un mot générique en grec « thomasia », qui veut dire aussi « chose étonnante ». Accessoirement, en français, le mot miracle vient du latin mirari, qui veut dire s'étonner. Et Dieu fait écho à tout ça par compassion. Et s'il me connaissait vraiment, il ne s'étonnerait pas. Il le dit d'ailleurs, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Mais ils ne me connaissent pas, alors eh bien, je vais les étonner. Donc, le miracle apparaît ici. Alors, peut-être l'un ou l'autre commence à être légèrement mal à l'aise en disant « ça, j'aime pas trop que le mot miracle dans la Bible apparaisse, non pas par une guérison ou un bien, à l'occasion d'une guérison ou d'un bienfait, mais à l'occasion d'un jugement. » Ben aussi, ça a été dit et confessé dans des prières et des chants, mais Dieu, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Hein. Et avec Élie, on ne sait pas d'où il sort, mais la première chose qui est dite de lui, ni rosée ni pluie, jugement. Alors, quel est le rapport? En fait, le jugement, il est inclus dans, le jugement ici contre l'Égypte, est inclus dans, j'ai bien vu la misère de mon peuple, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est inclus. Et quand vous lisez l'Apocalypse, la glorieuse rédemption développée, décrite et tout, eh bien, le récit, est, c'est toute cette gloire est entremêlée de récits de jugement, de jugement au long de l'histoire en partie, surtout à la fin et encore plus à la toute fin. Voilà. Et maintenant, Exode 4, versets 4, 5. Verset 2. L'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Moïse le jeta par terre et cela devint un serpent. Moïse s'enfuyait devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et cela redevint un bâton dans sa main. C'est, dit l'Éternel, donc cela, ce que je viens de faire là, pour toi, avec toi, c'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Voyez? Voyez? Là, Dieu fait le miracle. Le mot est apparu pour annoncer ce qu'il va faire, mais là, Dieu, il fait quelque chose qu'on qualifierait de surnaturel. Objectivement, le mot surnaturel, il est impropre dans le cadre de la foi chrétienne. C'est sans doute pour ça qu'il n'est pas dans la Bible. Le mot est impropre. Et Dieu, donc, il le fait. Moïse est même acteur en partie. Hein. Il voit. Et Dieu lui dit, pourquoi il le fait? Afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Et voilà, le miracle. Pourquoi le miracle? Pour servir la parole de salut de l'Éternel. Amen. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein, donc Moïse, hein, donc dans le vêtement là. Puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Je m'arrête pas, je ne peux pas m'arrêter, mais les deux fois, il y a référence au mal, le serpent et puis la lèpre. Voilà, c'est la puissance de Dieu qui est souverain sur les effets du mal. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Et il lui dit, remets ta main dans ton sein. Moïse l'a remis dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. Et alors là, il faut l'apprendre par cœur, là, ce qui suit. C'est Dieu qui dit, s'il ne croit pas, il ne prête pas attention, littéralement, dans le texte littéral, à la voix du premier signe, ils croiront à ce dernier signe. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes, n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche, et donc ça sera la première plaie, si je ne me trompe pas. Donc, Dieu, il a introduit le mot prodige, là il a introduit le mot signe. Donc le prodige dit c'est Dieu. ce que les magiciens, à un moment, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. C'est le mot, le prodige, c'est... extraordinaire et même effrayant. Même quand elle trouve le tombeau vide et qu'il y a l'ange qui vient, l'évangile précise qu'elles furent épouvantées. Ça, c'est le prodige. Et le signe, mais il fait quoi le signe? Mais il signale. Mais c'est pas dur, hein? Ça colle en français aussi, pour une fois. Et donc, il parle. Et selon Dieu, le signe est une voix. Autrement dit, Dieu fait des miracles pour que les miracles parlent. Ils servent sa parole. C'est trop beau, ça. Le signe dit quelque chose. Le miracle dit quelque chose. En secours de la part de Dieu à la surdité spirituelle des humains. Et même en bonne partie en Israël. C'est étonnant au début, quand Dieu parle à Adam et Ève, il n'y a pas de souci, hein, ils comprennent. Même à Caïn, après le péché, Dieu parle et Caïn, il entend. Mais très vite, vous lisez Genèse 6, ils pensaient que au mal, tous les humains, et ben, et ça les a rendus sourds. Eh bien, les miracles sont miséricorde de Dieu pour parler. Voix, ils sont voix. Donc, voilà. Maintenant, acte 10. Oh lolo. Non, il y a une erreur, je pense. Je fais comme les enfants. Donc, je ne situe pas le contexte, Pierre arrive chez Corneille et il doit prêcher. L'ange lui avait dit à Corneille, Pierre te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Ce que Pierre prêche, c'est ce qu'on appelle le kérigme, le modèle de prédication. C'est ça que des gens prêts à écouter doivent entendre. Et ça commence comment? Comment ça commence? Acte 10, verset 36. Il, Dieu, parce que Pierre vient de mentionner Dieu, Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël. Et il s'agit, et en fait, Pierre prêche Jésus. Comme Philippe en Samarie prêcha le Christ, vous voyez, hein, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Il prêche Jésus. Et quelle est la première chose qu'il dit? Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël. L'incarnation de Jésus dans le domaine du physique humain, c'est le plus grand miracle de tous. Et parce que là, c'est Dieu qui descend. Hein? Le plus grand miracle, c'est l'incarnation de Jésus. Et le Saint-Esprit fait prêcher à Pierre, là, le jour où la porte s'ouvre pour les païens, que Dieu a envoyé la parole. Alors bien sûr, après, Pierre va développer ce que Jésus a fait, et aussi la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, les miracles. Mais la première chose qui est dite, il a envoyé la parole. Et Jésus dira, l'homme ne vivra pas, il cite Moïse en l'occurrence, pas de pain seulement, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, c'est un moment clé, hein, la tentation au désert. Il ne dit pas l'homme vivra de tout miracle que Dieu fait. Dieu en fait. Quand Pierre dit à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il aurait pu dire à qui d'autre irions-nous? Tu fais tant de miracles. Mais, vous voyez, le miracle n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est que la parole de l'Éternel soit reçue, parce que c'est parole de salut, et que la vie éternelle consiste à le connaître. Or, il se fait connaître par sa parole. Vous savez que pour Jésus, parole qui sort de la bouche de Dieu, donc la parole de Dieu, le Père, ce que le Père me dit, et il est écrit dans la bouche de Jésus, tout ça c'est interchangeable. Donc il est exclu de dire oui, mais ce que la parole écrite c'est en dessous, et puis vous voyez, il ne faut pas jouer avec ça. Voilà. Ou bien quand Paul écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, il ne dit pas la foi vient des miracles de Christ. Bien entendu qu'il joue aussi. On a vu que le miracle avec Élie a conduit cette femme à la foi. Mais justement, revenons un petit peu à 1 Roi 17. Donc, comme on a tout lu, je peux juste rappeler le verset 14. Élie dit à cette dame, car ainsi parle l'Éternel. Oh, j'ai un trou là. Oui, la farine ne manquera pas, l'huile ne manquera pas, jusqu'à ce que l'Éternel fasse pleuvoir sur la terre. Donc là, il y a un miracle formidable. Il n'a même pas commencé que Élie a déjà dit qu'il s'arrêtera. Et pourtant, là, c'est un peu le top, parce que c'est un miracle quotidien. Alors ça, même dans la Bible, ça arrive pas beaucoup, hein. Que tous les jours, 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 tous les jours. Mais où j'aimerais, Seigneur ? Faut voir. Autrement dit, Dieu qui a créé le sol qu'il faut labourer, où la pluie vient, et il y a le laboureur et le semeur, et qui mange du pain ensuite. Dieu qui a créé tout ça, eh bien, il n'abolit pas ça. Le miracle ne sert pas à remplacer le créé. C'est capital. Plus largement, le miracle ne sert pas à abolir dès ici-bas, avant que Jésus ne revienne, abolir tous les effets de la chute. Formulé autrement, Dieu n'a pas promis le miracle systématique. Il l'a fait tous les jours, un temps, un moment. Quand Jésus multiplie les pains, une fois, c'est rapporté partout, mais dans l'évangile de Jean, il précise, il dit de ramasser les morceaux aussi dans les autres évangiles, mais il précise afin que rien ne se perde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant que vous êtes mes disciples, eh bien, la nouvelle manière de se nourrir ne sera pas multiplier le pain tous les jours. Voilà. Alors, un petit survol, là c'est le survol de 40 secondes, hein. Survol sur les miracles dans la Bible. C'est possible de survoler en 40 secondes, je ne sais pas, 40 ou 80 secondes, mais je viens d'en perdre 10. Dieu fait de nombreux miracles avec Moïse. L'Ancien Testament, clairement, c'est énorme. Nombreux miracles, et pas que de jugement hein, contre l'Égypte, aussi au bénéfice du peuple. Nombreux miracles. Moïse est qualifié dans les Écritures de médiateur de l'Alliance. Ensuite, Dieu en fait avec Josué. Beaucoup moins. Moins nombreux. Il en fait quasiment aucun avec Samuel. Il y a l'épisode des années, enfin un petit peu. Avec David, le roi David. Ou, voilà, quasiment aucun. Quasiment aucun. Et pourtant, là, on est fidèle à l'Éternel. Globalement. Il en fait beaucoup avec Élie. Là où Israël est le plus infidèle. Donc, il n'y a pas lieu de se faire un genre de connexion. Si on était 100 fois plus fidèle, il y aurait des miracles tous les jours, partout. Ça ne correspond pas avec... Vous voyez, avec les données bibliques. Si ça vous aide, retenez cette expression, les données bibliques. Si les données bibliques ne m'encouragent pas, c'est que je suis trop sélectif. Vous voyez ? Il n'y a que certains accents qui m'encourage. Donc, beaucoup avec Élie, Élisée, beaucoup. À ma connaissance, deux avec Ésaïe. Très peu avec Daniel, etc. Dans le Nouveau Testament, très nombreux miracles avec Jésus. Très, très nombreux miracles avec Jésus. Il est précisé à son sujet que, à différents endroits et différents lieux, tous étaient guéris. Donc, pas partout, pas tous les jours, mais par moment et par endroit, tous étaient guéris. Énormément de miracles à Jésus. Jésus est le médiateur de l'Alliance. Autrement dit, le plus de miracles, c'est avec le médiateur. Et ça dit, parce que le miracle, c'est une voix, ça dit que c'est Dieu qui les fait, au bénéfice de ceux qu'il appelle à son, qu'il appelle à son alliance. Donc, très nombreux avec le Seigneur Jésus, moins avec les apôtres. Donc déjà, le temps de l'évangile, pas mal, on va le voir avec Matthieu 10. Mais ensuite, dans les actes, moins. Au sujet des apôtres, il est dit une fois que tous furent guéris. C'est dans acte 5, quand il y a l'épisode de l'ombre de Pierre. Une fois, il est dit tous. Et avec d'autres que les apôtres, c'est moins aussi. Voilà. Faut-il conclure de cela que plus au long de l'Alliance, plus le temps passe, moins Dieu est bon? Quand nous voyons un miracle, nous disons Dieu est bon. Est-ce que mon cœur dit également, aussi sincèrement, que Dieu est bon quand je n'en vois pas? Mais il y a intérêt, parce que Dieu n'a pas promis d'en faire toujours. Il en fait, il en a toujours fait, il ne s'arrêtera jamais, jusqu'à ce que le Christ revienne, après il n'y aura plus besoin. mais il n'y a pas de promesse dans la Bible que face à toute situation, il y aura miracle. Voilà. De même, je ne développe pas maintenant, mais ça c'est une piste à laquelle il ne faut pas qu'on soit sourd. Enfin, il faut faire attention. La parole de l'Éternel fut adressée à la parole de l'Éternel fut adressée à. Et ça dit quoi? Ça dit que Dieu a parlé. Donc, quand il voulait, à qui il voulait, il a dit ce qu'il a voulu. Mais ça dit aussi en creux, la Bible ne nous dit pas que la parole de l'Éternel est en permanence adressée à tout le monde. Comme sous le mode révélation, sous le mode prophétie, etc. Voyez, l'idée que, si vous voulez, Dieu parlerait toujours et que je peux prophétiser quand je veux, ça ne respecte pas les données bibliques et mène à de drôles... Vous savez à quoi ça mène? Eh bien, à ce que l'Éternel reproche à Israël, ils prophétisent selon leur propre cœur. Voilà, ça mène à ça. Tout ce qui monte dans mon cœur, c'est prophétique. Mais non. Matthieu 10 pour finir. Quelqu'un peut, ça, je gagnerai du temps. Il est midi moins le quart? Ah, mais je suis trop content. Tout à l'heure, j'ai cru voir midi moins 5. Et je me faisais du souci. Je ne suggère pas que Dieu a fait reculer de comme avec Josué, puis avec Ésaïe, pour Ézéchias. C'est Ézéchiel 13, hein, ils prophétisent selon le propre cœur, selon leur propre esprit, etc. Alors maintenant, Matthieu 10. On a bien échangé avec... En fait, toute cette réflexion, cette prédication, c'est quelque part, c'est... a mûri et s'est peaufiné pendant un bel échange avec André et Esther, là, quand ils sont venus nous voir la semaine dernière. Matthieu 10, verset 1, et puis verset 7-8. Verset 1. Puis, il, Jésus, appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir, l'autorité, littéralement, bien sûr, passé par délégation. C'est capital. C'est pas j'ai des pouvoirs. Si vous voulez. Autant je ne prophétise pas quand je veux, autant je n'opère pas un miracle quand je veux. Voilà. Leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et donc il les envoie, verset 6, donc, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, ces versets, et beaucoup de versets comparables, ils nous bougent, nous enthousiasme, nous désespère. En tout cas moi. Plus maintenant. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais un jour, vraiment je ne sais pas comment c'est venu, c'est pas très vieux. C'est tout dernier, hein, j'ai 69 ans et c'est toutes dernières années, là, un ou deux ans, peut-être trois, je ne sais pas. La question m'est venue. Les 12, là, comme ils sont délégués, envoyés par Jésus, est-ce qu'ils sont prémices de tout croyant, de chaque croyant individuellement? Autrement dit, quand tu lis « Guérissez le malade, ressuscitez les morts, preuves, etc. », est-ce que tu lis à moi David, désolé, hein, tu es là. Dieu me dit de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les preux. Voilà. Est-ce que les 12 sont les prémices de chaque croyant individuellement, ou bien est-ce qu'ils sont les prémices de l'Église? Et du coup, voilà, on va voir quelle est la. Voilà. Alors, la réponse. Eh bien, je vais vous la donner comme elle m'est venue. Ce n'est pas la mienne. Je n'ai pas reçu une révélation qui serait la clé d'interprétation du début de Matthieu 10. La réponse, elle m'a été, c'est, la pensée est juste venue, c'est tu dois la trouver dans la suite. Parce que d'accord, les 12, ils l'ont fait pendant un petit moment. Jusqu'à la crucifixion de Jésus, la résurrection. Mais après la suite, les actes des apôtres et les épîtres et toute la suite. Vous voyez, ça fait partie de ce que Dieu... Vous voyez, jusqu'à ce que Jésus tant que Jésus était sur terre, il n'y a que les 12 qui ont fait ça, et puis c'est mentionné de 70 autres. C'est très intéressant, hein, les prémices. Les 70, je pense qu'il est difficile de les comprendre autrement aussi que comme le début de l'Église, vous voyez, comme un embryon de l'Église. Alors, dans les actes, parce que c'est ça, si vous voulez, c'est pas mon opinion. Vous voyez, tu as dit tout à l'heure, on apprend à prêcher, on apprend à enseigner. Eh bien, une des choses capitales quand on prêche, qu'on enseigne, c'est qu'on est au service du texte, on est au service de la parole de Dieu. On n'argumente pas pour que ma propre opinion soit admise. Voilà. Donc, que montrent les actes? Eh bien, acte 5, verset 12. Et Dieu faisait, par les mains des apôtres, beaucoup de prodiges. Par les mains des apôtres. Acte 5, 12. Acte 19, 11. Il se faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Alors, mais il n'y a pas que ça d'écrit. Il y a écrit, donc, les apôtres, mais même de leur vivant, il n'y a pas monopole. C'est pas exclusivement par les mains des apôtres. Et Dieu faisait de grands miracles par l'intermédiaire d'Étienne. Acte 6, verset 8. Et on peut inverser les chiffres. Acte 8, verset 6. Philippe en Samarie, il prêcha le Christ. Et les gens crurent à la vue des miracles qu'il opérait. Donc, les 12, clairement le socle de l'Église, mais aussi d'autres. Alors, comment ? Alors, pardon, et je finis sur Actes, mais il est écrit nulle part, Dieu faisait des miracles par les mains de tous. On se dit, non, mais je ne veux pas appuyer ma foi sur un silence. Vous voyez, ce n'est pas écrit de tous, donc, eh bien, c'est, alors, si vous, le silence ne vous suffit pas, alors je vais vous donner une parole qui a été dite. Tous font-ils des miracles ? Alors, justement, on va dans 1 Corinthiens, où on a commencé, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 12. Alors, le paragraphe sur les charismes, les dons spirituels, ce ne sont dans le Nouveau Testament, charisme est extrêmement, le sens est bien plus large que ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 12. Ça vient de charis, la grâce. Charisme, c'est les dons de grâce, les dons faits par grâce de Dieu et par sa grâce. Mais, voilà, les dons de grâce. Vous savez, en français, le mot don a globalement deux significations. Possible, c'est tiens, donne-moi tes notes. Bon, je te donne mes notes et tu les gardes. Donc, je t'ai fait un don. Donc, c'est le cadeau, quelque chose qui est donné. Et le don désigne le fait que c'est donné. En français, le mot don a un autre sens. Si j'ai un don, je suis doué pour chanter, pour la patience. Ah, c'est encore plus glorieux que chanter des fois. Hein. Voilà, je suis doué. Eh bien, le mot charisme, traduit par don de grâce, en fait, je pense qu'à chaque fois, il faudrait qu'il y ait le mot grâce, puis c'est charisme. Passons. Dans le Nouveau Testament, n'a que le premier sens. Autrement dit, les charismes ne signifient pas que subitement, je suis doué pour guérir les gens, pour prophétiser. Conjurer les brûlures, je fais exprès de... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour prédire l'avenir, tiens, cartomancie évangélique. Enfin, voyez, ne signifie pas je suis doué pour... Un jour, j'ai été profondément scandalisé dans mon cœur quand j'ai entendu une personne reconnue comme prophète dire « Mon don de prophétie, je l'ai depuis avant ma conversion ». Il y a un problème là. Voyez que surnaturel, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas le surnaturel que nous... Enfin, nous ne nous inclinons pas devant le surnaturel, mais devant la parole de Dieu et les miracles de Dieu. Alors, 1 Corinthiens 12, dans le paragraphe sur les charismes, qu'est-ce qu'on lit ? Eh bien, que par l'Esprit... La manifestation de l'Esprit est donnée à l'un, à l'autre, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est donné ? Non pas que celui qui reçoit ça pourra toujours le faire comme il veut, mais ce qui est donné, c'est que le Saint-Esprit s'est manifesté là, par une prophétie, par un don de foi, par une guérison, par une, etc. Parole de connaissance, voilà. Est donné. Et à la fin du paragraphe, toutes ces choses, l'Esprit Saint les distribue comme il veut, à qui il veut. Et donc là, on a, si vous voulez, Paul récapitule finalement tous les données du livre des Actes. Dieu donne sur le moment comme il veut et à qui il veut. Alors vous allez dire, mais il y a des gens à qui Dieu a donné d'opérer des guérisons, mais dans leur vie, sur 40 ans au service de Dieu, ils en ont vu, ils en ont vu 5000, mettons. Je dis, oh, hein, ils en ont vu 5000. Eh bien, selon la vérité au sens biblique, ça veut dire que 5000 fois Dieu a donné. Oui, mais peut-être qu'eux, ils sont doués pour. Est-ce qu'ils guérissent tout le monde ? Non. Celui qui a vu 5000 guérisons, en 40 ans, il a côtoyé facile 10 fois plus de personnes malades qui n'ont pas été guéries. Et les apôtres eux-mêmes, Paul avec Trophime, bon, etc. Voilà, c'est capital. Alors si cet homme-là vient, et en une heure, micro à la main, vous raconte, alors c'est pas possible les 5000 miracles, mais le maximum. Tac, 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 tout. Là, vous êtes, vous décollez de la chaise, hein. C'est enthousiasmant. Et puis finalement, on réalise, ça illusionne. Pourquoi ? Où est l'illusion ? Ça laisse l'impression que la normale du chrétien, c'est du matin au soir, du lundi au dimanche soir, miracle, 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 miracle. Et pourtant, il dit rien de... Il ment pas, celui qui rend ses témoignages. Des fois, c'est amplifié, mais il ment pas. Il rapporte les œuvres de Dieu, mais d'une manière qui suggère que le miracle est devenu norme. Et du coup, donc ça enthousiasme, ça illusionne, et finalement, ça décourage. Et c'est pour ça que je suggère humblement que c'est aux données bibliques de nous encourager. Et c'est là où je vais finir. 1 Roi 17. Vous vous rappelez ce qu'on a lu ? L'Éternel écouta la voix d'Élie. Verset 22. Alors il y a une chose remarquable dans 1 Roi 17. Et donc on a, hormis, j'allais dire, le miracle de jugement, hein, qu'il n'y a pas de pluie, hormis ça, où c'est implicite, mais c'est incontestable que ça vient par la parole de Dieu, hein, ne serait-ce que par Deutéronome, etc. Il y a 3 miracles, avec les corbeaux, avec la dame veuve, et puis le fils, enfant, pas adulte, hein, enfant qui est ressuscité. Les 2 premiers... Le texte ne dit pas qu'il résulte d'une prière d'Élie. Dieu fait des miracles qu'on ne lui a pas demandé. Heureusement qu'il ne fait pas que ce à quoi on pense et ce qu'on demande. Vous voyez, c'est remarquable. Mais le troisième, donc aux yeux humains, plus étonnant, le plus impressionnant. Là, le texte fait l'inverse. Ne mentionne pas que Dieu l'avait prévu, ce qu'il a fait quand même, hein, mais c'est Élie qui voit ça. Quelle réaction d'Élie ? Alors là, il est un peu accusé par la dame, hein, mais bon, peu cher dans la douleur. Mais lui, il ne se justifie pas, il ne répond pas. Ce n'est pas le ping-pong, hein, voyez. Il ramène tout devant Dieu. Et il supplie Dieu, Éternel, je t'en prie, je t'implore. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie. Voilà, donc les données bibliques encouragent. Et c'est là-dessus que le Nouveau Testament insiste en mentionnant Élie, donc c'est Jacques. Et Jacques le dit au sujet de la pluie, et pria qu'il ne pleuve pas, et pria qu'il pleuve. Mais évidemment, la leçon vaut pour tout. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous, hein, il n'y avait pas un don, voilà, c'était pas un magicien, mais il a prié Dieu instamment. Et donc, ça a été dit aussi ce matin, j'étais quand même très touché, hein, ce matin, mais je ne sais plus, c'était à genoux, toi. Il y a une source qui ne coule pas, je crois, une source, il n'y a pas d'eau, mais agenouille-toi et prie. Hein? Agenouille-toi et prie. Voilà. Donc, les données bibliques encouragent à prier. Bien sûr, Élie a prié sur la volonté de Dieu, selon les termes de l'Alliance. Voilà, les textes poussent à prier. Donc Dieu fait des miracles, c'est bon pour la foi. Dieu ne fait pas de miracles, c'est bon pour la foi. Voilà. Alors, ben, la conclusion, Marc 16, verset 20. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Les miracles sont au service de la parole de l'Évangile. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Amen.